Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Fiction ou prémonition ? La série Événement La Fièvre met en scène une France qui bascule dans une guerre identitaire après un coup de tête et une insulte.
Je vous appelais parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot.
Seul tout bon.
Est-ce que c'est du racisme anti-blanc ?
En quelques heures, les médias s'emballent et le pays s'embrase. Sur les réseaux sociaux, des groupes identitaires attisent les tensions, à l'image de cette influenceuse d'extrême droite qui instrumentalise l'affaire.
C'était le 11 septembre de leur vivre ensemble.
Une experte en communication de crise est appelée à la rescousse pour contrer ces discours de haine.
Je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement.
Toujours plus hard, toujours plus de buzz.
C'est un cauchemar.
Frappante de réalisme, la série suscite le débat. La Fondation Jean Jaurès, des chercheurs, des politiques et des journalistes ont avalé et décortiqué les 6 épisodes et tous s'interrogent.
La fièvre propose-t-elle une image juste ou même prémonitoire de ce qu'est ou pourrait devenir une France archipélisée, fracturée par les clivages idéologiques, prise dans la bourrasque des réseaux sociaux ?
Cette France, au bord de la guerre civile, a été imaginée par Éric Benzekri, auteur de la série à succès Baron Noir. Le scénariste, ancien conseiller politique, a écrit La Fièvre il y a 3 ans, bien avant les émeutes de l'été 2023.
Il est considéré comme un oracle, Éric Benzekri. Il est consulté par les politiques, y compris au sommet de l'État, parce que dans sa précédente série, il avait senti venir la vague populiste, des mouvements comme les Gilets jaunes, la montée d'un Mélenchon. Bref, c'est quelqu'un qui a un vrai pif.
Alors, la série d'Éric Benzekri est-elle visionnaire ? Fiction ou réalité ? Faut-il prendre au sérieux le spectre d'une guerre civile ?
Jérémy Pelletier, bonsoir, co-directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à l'origine donc de l'étude sur la fièvre, enseignement politique d'une série, vous avez d'ailleurs écrit « Tenter de guérir dans une société de la déglingue » dans le cadre de cette étude. Selon vous, cette série, La Fièvre, donc, permet de nous interroger sur les conditions potentielles de la guerre civile et de l'irruption de la violence. Il faut prendre cette inquiétude-là au sérieux, et vous avez, je vous ajoutais, il faut la prendre au sérieux dans un but cathartique, faire en sorte, bien sûr, que cela n'arrive pas. À côté de vous, Eugénie Bastier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Figaro. Vous avez publié en octobre dernier La dictature des ressentis chez Plon. Selon vous, l'angoisse identitaire est réelle en France, pas juste montée en épingle par les réseaux sociaux, comme tente à le montrer la série. Pour autant, vous ne croyez pas au scénario de la guerre civile, même si la France connaît des éruptions régulières de violence. Et à côté de vous, Laurence de Nervaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du think tank Destin commun. Votre note, La fièvre ou l'illusion de la polarisation, est à retrouver donc dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès. Et selon vous, La Fièvre est une très bonne série. Pour autant, la France n'est pas une société aussi polarisée que la série ne le montre. Cette fiction agit comme un effet de loupe sur une proportion très minoritaire du pays. Et on démarre, Benjamin, avec la phrase du jour.
Oui, c'est celle du réalisateur donc, de la série La Fièvre, diffusée sur Canal, Éric Benzekri. Je le cite, « On n'arrive plus à voir le réel, alors
scénariste.
Il faut de la fiction. » Jérémy Pelletier, première question pour entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que cette fiction décrit le réel ou pas ?
Elle décrit une part du réel. Elle décrit aussi une part des inquiétudes, une part des angoisses, une part des peurs qu'il y a au sein de la société française, mais aussi au sein de ce qu'on appelle l'opinion publique. Et en fait, c'est en ça où nous, on trouve aussi la série très intéressante, très passionnante, très stimulante. C'est
vous,
que
la Fondation. Hein.
Nous, la Fondation Jean Jaurès, absolument. C'est qu'elle décrit assez bien la fabrique de l'opinion publique, la façon dont l'opinion publique, la façon dont le débat public parfois s'embrase, devient parfois totalement irrationnel. Et donc, il y a une part évidemment de réel, il y a une part de choses qui concernent la société concrète, ce qui la touche en profondeur, mais aussi une part effectivement de description des angoisses assez profondes de l'époque pour essayer de les atténuer un peu et pour essayer de les calmer un petit peu.
Eugénie Bastier, le scénariste, vous avez raison de le préciser, Éric Benzekri, est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce que ça vous apparaît visionnaire ou pas, cette série, à vous ?
Écoutez, moi, je pense que cette série dit une partie du réel. Elle dit effectivement elle dit une partie du réel médiatique, en réalité. C'est-à-dire la manière dont les médias, effectivement, amplifient la moindre polémique.
Les réseaux sociaux, évidemment.
Les chaînes d'infos continues, etc. C'est-à-dire l'écosystème médiatique dont nous vivons. Mais à mon avis, elle fait l'économie d'une partie du réel, c'est-à-dire qu'elle fait comme si la polarisation identitaire était juste montée en épingle, montée en sauce par les réseaux sociaux et qu'elle n'avait pas d'assise dans la réalité. C'est un peu comme les gens qui disent que Trump est le résultat de Facebook, si vous voulez.
Je
bah pense
alors
que
elle minore, d'après vous, quand vous entendez.
Oui, donc elle minore une partie de RAI, et par exemple, elle met face à face, des, on va dire, grosso modo, des identitaires de gauche et des identitaires de droite, mais elle fait l'impasse, par exemple, une réalité française énorme, massive, dont nous voyons tous les jours les faits, l'islamisme, par exemple. L'islam n'existe pas, la sécession d'une partie de la population nourrie par l'islamisme n'existe pas dans la série, donc c'est comme si les gens se disputaient autour d'un sujet qui est invisible, en réalité. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans cette série. J'ai l'impression qu'il y a un grand non-dit derrière. Il manque une partie, un Lego, si vous voulez, important du réel.
Laurence Denervaux, un non-dit, comme le dit Eugénie Bastier.
Alors, je pense que nous sommes tous les trois d'accord pour dire que cette série montre une partie du réel. Pour ma part, je voudrais m'arrêter un instant sur la notion de polarisation, qui est en fait la toile de fond de cette série et qui est aussi le cœur de sujet du think tank que je dirige. Qu'en est-il? Que dit la recherche sur cette question de la polarisation? Est-ce que la France est une société polarisée ou pas? Ce qui est quand même globalement la thèse de la série, hein, puisqu'on arrive à un débat très binaire et clivant sur le port d'armes citoyens. Eh bien, de ce point de vue-là, pour moi, la série présente une distorsion du réel et une distorsion de l'opinion, puisque la France n'est pas une société foncièrement polarisée. C'est ce que montrent toutes nos études depuis quelques années maintenant, et on l'a montré notamment sur des sujets qui ont été les plus clivants dans le débat public ces derniers mois. Les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la guerre entre Israël et le Hamas, sur ces deux sujets, on a montré avec des chiffres que les soutiens extrêmement radicaux d'un camp ou de l'autre camp n'étaient qu'une toute petite minorité de la population française et que la grande majorité, au contraire, de nos concitoyens était capable d'intégrer la nuance et la complexité et de faire preuve d'empathie à l'égard de plusieurs camps ou de plusieurs protagonistes.
Jérémy Bastier, on va élargir la focale sans rester sur la fièvre. Est-ce que la France est malade d'une fièvre identitaire ?
Je ne pense pas que la France, en tout cas, soit malade d'une fièvre
identitaire. Au regard de tous ces faits divers.
Oui, en tout cas, moi, je pense que la France est malade d'un état de tension assez régulier. Et en effet, quand on parle de ces différents faits divers-là, et c'est assez bien exprimé d'ailleurs à travers l'expression même de la déglingue, c'est-à-dire le sentiment, et on peut avoir le sentiment qu'on est dans une France, dans une société qui est toujours un peu à deux doigts de péter les plombs sur à peu près tout, sur à peu près tous les sujets, mais sont des phénomènes finalement qui s'arrêtent assez vite dans le temps. Vous avez en effet parlé des émeutes urbaines, mais il y a tout un tas d'autres sujets comme ça, où ça naît comme ça très vite, mais c'est assez contenu finalement dans le temps. Après, ce que je trouve intéressant, pour rebondir aussi sur la question de la polarisation, je trouve que la série, ouais, elle met en lumière finalement le cœur profond de la société française, le corps central de la société française. En gros, qu'est une société qui, quand on l'interroge dans un certain nombre d'enquêtes sur ses aspirations pour les années à venir, en gros, ils aspirent plutôt à la quiétude, ils aspirent plutôt à l'apaisement. Et c'est en ça où c'est très intéressant de montrer certains camps politiques qui, eux, ont intérêt à jouer avec la fièvre, parce que le corps central de la société n'aspire pas, entre guillemets, au bordel, n'aspire pas à la révolution, n'aspire pas à ce que ça dégénère.
Et quand on l'interroge sur ses peurs?
Oui, mais moi je crois que ce qui caractérise notre époque, c'est pas la fièvre, c'est l'apathie. Et je crois que la dénonciation de la polarisation émane aussi d'un centre politique qui ne supporte pas la notion même d'alternance et qui bien souvent, je pense que notre société se caractérise plus par le refus du conflit que par l'exacerbation du conflit. C'est-à-dire que nous ne supportons pas, en réalité, collectivement, l'expression du conflit parce que nous sortons de 20 ans, finalement, de ce que Chantal Mouffe, la populiste de gauche, appelait l'illusion du consensus, c'est-à-dire cette alternance entre Pepsi et Cola, une droite centriste et une gauche centriste. Et en fait, on a un retour de la politique aujourd'hui, avec des propositions de gauche et des propositions de droite effectivement assez marquées, et nous ne supportons pas en fait le débat, nous ne supportons pas le conflit, et je crois que c'est ça la vérité de notre société, c'est nous refusons la confrontation.
Je pense que là on est un petit peu en décalage avec un certain nombre d'épisodes qu'on a vu ces derniers mois et qu'on a beaucoup entendu commenter dans les médias avec
3000 attentats à la bombe en 1969 aux États-Unis, 4000 morts pendant la guerre d'Algérie sur le sol français. Je veux dire, la violence politique, elle a toujours existé, c'est juste qu'on n'était plus habitués.
Absolument, voilà, ce dont je voulais parler. Et quand je parle de ce discours, de cette rhétorique qui revient perpétuellement dans les médias aujourd'hui, c'est ce discours d'une France fracturée, de deux France face à face, de risque de basculement de notre société, etc. Ça, c'est une rhétorique qui devient omniprésente aujourd'hui et qui, pour le coup, est en décalage, et c'est là que je rejoins Jérémy Pelletier, avec ce que souhaitent les Français, qui sont parfois, mais là aussi, on peut se rejoindre. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette forme d'apathie. Hein. Ouais. Jérémy dit recherche de quiétude. Là, il peut y avoir quelque chose de convergent, en fait.
Ouais,
abstention, suspension du jugement. Mais en revanche, peut-être revenir sur la question des batailles identitaires, de cette dimension qui est très bien travaillée, je pense, assez finement par Éric Benzekri. Et c'est là qu'on peut voir le scénariste de la fièvre.
Mais Est-ce qu'il faut faire une lecture politique de la série ? Attendez, Éric Zemmour, pour citer Éric Zemmour, enfin son camp, ils disent, c'est le reflet exact de ce que l'on constate.
Oui, mais alors,
qu'est-ce que vous faites de ça, de cette lecture ?
Alors, chacun, évidemment, va voir la série en fonction de ses propres intérêts, au même titre que chacun voit toujours un fait divers en fonction de ses propres intérêts. Et ça, je peux l'entendre, et c'est assez logique, finalement, et ça, c'est la vie politique. Oui, je pense que c'est une série politique dans le sens où elle raconte un certain nombre d'enseignements sur la France et que les responsables politiques, en effet, seraient très avisés de la regarder. Le scénariste Éric Benzekri le dit d'ailleurs lui-même. Il dit, lorsque je fais cette série-là, finalement, c'est plus efficace que sans édito. C'est plus efficace, sans doute, que sans chronique politique.
Mais
est-ce que c'est sans essai.
Est-ce que c'est une grille de lecture de droite, Eugénie Bastier, certains disent ça, pour reprendre... Voilà, Éric
Zemmour. C'est une grille de lecture du centre.
C'est une série qui exprime
pour moi les inquiétudes d'un centre qui effectivement voit avec angoisse se lever des propositions qu'il estime extrémistes. Et d'ailleurs c'est ce que traduit la référence à Stefan Zweig dans la série récurrente. Stefan Zweig, le prophète centriste des années 20-30 qui s'est élevé contre les deux extrêmes. Or moi je pense effectivement, je suis d'accord qu'il y a une espèce de radicalisation sur les réseaux sociaux et qui est très bien décrite dans la série. Oui. Mais je ne pense pas que nous sommes dans le retour des années 30. Je pense que c'est une erreur absolue de penser que notre société n'a plus rien à voir avec la société des années 30. Et je crois effectivement, moi, ce qui m'inquiète le plus en tant que citoyen, c'est plutôt l'apathie civique, le désengagement des citoyens, la montée de l'individualisme,
c'est pas la radicalisation,
l'archipélisation.
C'est ce que montre des...
Mais
des
la radicalisation, en réalité, elle est essentiellement virtuelle aujourd'hui. Effectivement, il y a des émeutes, on l'a vu. Effectivement, ça, je le nie absolument pas, dans certains territoires. Mais je ne crois pas, on va y venir sans doute, mais je ne crois pas du tout au scénario de la guerre
civile. Laurence Denervaux sur la radicalisation.
Oui, revenons un instant sur la réaction d'Éric Zemmour qui dit « c'est la réalité que nous voyons aujourd'hui ». C'est tout à fait logique qu'il dise cela, puisque le carburant de l'extrême droite, c'est la peur, c'est même, je dirais, la matière première politique de l'extrême droite. Et justement, c'est là aussi, en filigrane, ce qui est très bien décrit dans la série, ce climat de peur où, tout d'un coup, à un moment, on finit par adhérer à l'idée qu'on aurait tous besoin d'avoir des armes, comme aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique que l'extrême droite se reconnaisse dans cette vision qu'en réalité, elle promeut, elle pousse et elle cherche à imposer, parce que c'est la peur qui lui permet d'engranger des voix.
Je propose une archive qui remonte à 2018 pour montrer à quel point la peur d'une société polarisée qui n'arrive plus à se parler ne concerne pas seulement les gens de droite, il s'agissait de Gérard Collomb. Regardez.
Je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse. La situation est très dégradée. C'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Aujourd'hui, on vit côte à côte, et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc, nous sommes en face de problèmes immenses.
Jérémy Pelletier, de France, c'est ça aujourd'hui la réalité ? C'est ce qu'il décrivait en 2018 déjà ?
En parlant évidemment des quartiers populaires, mais je trouve que c'est justement toute la vertu et tout l'objet aussi de la série dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de montrer peut-être avec excès ce qui pourrait, entre guillemets, advenir pour éviter justement que l'avenir, entre guillemets, advienne. C'est-à-dire que, à mon avis, dans la série, on parle effectivement de potentielle guerre civile.
Spectre de guerre civile.
C'est le spectre de la guerre civile. La potentialité de voir effectivement de France face à face, ou plusieurs
France
d'ailleurs, dos à dos ou face à face. Mais c'est justement pour qu'on intègre un certain nombre de pare-feux, pour que on pense, entre guillemets, contre nous-mêmes, qu'on s'auto-corrige, entre guillemets, sur ce qu'on fait, nous, collectivement.
Mais certains vous diront que c'est de France, depuis le 19e siècle, on en parle, et c'est pas nouveau. C'est-à-dire, on a toujours dit qu'il y avait de France dans plusieurs épisodes de notre histoire, et qu'au final, ça n'a pas abouti à une explosion, à un éclatement.
Non, non, mais...
prédisait ce
ministre. Ça a abouti à quand même beaucoup de, non, mais, de dégâts.
Mais je pense, moi, à titre personnel, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, la thèse de la série, que la France, aujourd'hui, a suffisamment de pare-feu et ne remplit pas, entre guillemets, toutes les conditions pour qu'une potentielle guerre civile advienne. Mais c'est justement là aussi toute la vertu de montrer avec excès ce qui pourrait advenir, c'est quoi les conditions, entre guillemets, pour que ça n'arrive pas. Et ça, je crois que c'est très bien montré dans la série. C'est effectivement une part de dialogue, une part de conversation démocratique plutôt saine, une part de collectif. Alors, ça peut sembler assez bisounours, évidemment, de dire ça, ça peut sembler assez facile, sauf que, et pareil, je rejoins Eugénie Bastier sur la dimension apathique de la société, la dimension, vous savez, on parle beaucoup de civilisation du cocon, d'une société qui se recroqueville. En fait, les conditions pour qu'une potentielle guerre civile arrive, pour que, effectivement, des Francs se retrouvent face à face, c'est le recroquevillement. Et c'est le contraire, effectivement, de ce qui permet dans la série à ce que finalement la crise soit résolue, à savoir le collectif et le fait de coopérer ensemble.
Alors, guerre civile, il en est question donc dans la série La Fièvre, il en est question aussi dans un film totalement épileptique qui est sorti il y a quelques jours, un film américain qui s'appelle Civil War.
Oui, exactement.
Et Civil vous nous en parlez, Anna.
Civil War, le film d'anticipation qui cartonne aux États-Unis mais aussi en France depuis le 17 avril. Et dans ce film, eh bien, Alex Garland, le réalisateur, imagine une Amérique complètement fracturée après que plusieurs États ont fait sécession, une guerre civile éclate, des milices citoyennes s'affrontent très violemment et le président des États-Unis est complètement retranché à la Maison Blanche. Et c'est alors que quatre reporters de guerre vont décider de couvrir le conflit depuis New York jusqu'à Washington, Washington où ils espèrent pouvoir photographier la destitution du président. Alors évidemment, le film rappelle le souvenir de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Pourtant, le scénario a été écrit bien avant, en juin 2020, c'était donc 7 mois avant, et le réalisateur ne se considère pas pour autant comme visionnaire. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs. L'idée que nous vivions une époque où des choses extrêmes pouvaient arriver était déjà présente. J'ai voulu montrer où la polarisation politique pourrait nous conduire. Alors ce scénario de guerre civile à l'américaine, il peut faire sourire en France, Eugénie Bastier. Et pourtant, dans les derniers épisodes de cette série La Fièvre, la question de la guerre civile, elle semble être une option. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit quand même prendre au sérieux ?
Moi, je suis très sceptique sur cette idée de guerre civile. Et d'ailleurs, l'assaut du Capitole, on peut le lire de deux manières. On peut le lire effectivement comme un phénomène très grave de remise en cause des institutions, mais on peut le lire aussi comme une espèce de parodie de grotesque qui a achevé le trumpisme dans une espèce de farce. Il y a deux manières de le lire.
Il y a eu des morts, quand même.
Oui, il y a eu des morts, effectivement, tués par la police, mais, les États-Unis ont connu, ce sont un pays violent qui connaît régulièrement des éruptions nihilistes. Et moi, je ne crois pas à la guerre civile, je crois plutôt que, si vous voulez, l'atmosphère de notre temps, c'est plus l'atmosphère d'une décadence que d'une guerre civile, c'est-à-dire quelque chose de doux, d'une espèce d'effritement du commun, d'archipélisation, comme le dit Jérôme Fourquet, qu'un véritable affrontement. Et le modèle, pour moi, c'est moins les guerres de religion que la chute de l'Empire romain. Il y a un côté, effectivement, sur le temps long, de dislocation de l'Occident, mais je ne crois pas à un affrontement violent, tout simplement parce qu'il faut être deux, et que les pays occidentaux sont des pays vieillissants. La guerre civile, ça se fait dans des pays jeunes. Nous sommes des pays qui sommes vieillissants. Et je vois vraiment pas qui prendrait les armes aujourd'hui, en tout cas pour.
Laurence Nervous, vous en parliez tout à l'heure dans la série, on parle du port d'armes. Ça, c'est quand même pas très, très cocon, pas très apathique.
Je reviens sur la comparaison avec les États-Unis. Il y a quand même plusieurs différences majeures entre ce pays et le nôtre. L'une qui est qu'ils ont un système à deux parties, ce qui n'est pas notre cas et ce qui favorise la polarisation. Et l'autre qui est qu'ils ont déjà le port d'armes, qui aujourd'hui.
Et 430 millions d'armes à feu en libre circulation aux États-Unis.
Voilà. Sur cette question du port d'armes, il se trouve que nous l'avons testé dans une étude en Cali, il y a quelques mois à peine.
Ça veut dire quoi,
Cali ? Pardon, une étude qualitative, pardonnez-moi.
Si.
Et il se trouve que le constat est absolument sans appel.
Vous voulez dire les Français n'en veulent pas ?
Non, les Français, le repoussoir américain fonctionne à 200%, si vous voulez. Ils disent tous que ce serait le Far West, au secours, voilà. Mais en revanche, ce qui est préoccupant, c'est que malgré le fait qu'objectivement l'Amérique soit beaucoup plus polarisée que la France, les Américains se sentent encore malgré tout plutôt unis, ils ont cette espèce de confiance intrinsèque en eux-mêmes que nous autres Français n'avons pas. Nous avons aussi des chiffres qui le montrent et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions, sur le fait de reprendre confiance en nous-mêmes, en notre capacité à avancer ensemble.
Alors dans la série, il y a une assemblée de citoyens qui votent pour le port des armes généralisé. Tout à fait. Oui. Mais alors justement, Jérémy Pelletier, parce qu'à vous entendre, on se dit, finalement, il y a de l'excès dans cette série, mais alors c'est les politiques aussi en France qui sont excessives, qui font de tout cela une instrumentalisation en agitant le spectre d'une guerre civile ou en tous les cas d'une bagarre généralisée à venir. On l'a entendu dans ces derniers temps à chaque fois qu'il y a eu un fait divers mortel, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes.
Alors ce qui est très intéressant justement dans la série, c'est qu'il y a plusieurs absents, mais il y a un grand absent, c'est le politique.
Oui.
Le politique n'est absolument pas présent et ce qui est intéressant quand on sait que le scénariste en question
avait
est celui
écrit
qui a écrit évidemment Baron Noir, là où la politique est évidemment présente, voire même avec excès. Le politique est absent. Pourquoi ? Parce que, sans doute, une partie de ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire c'est lui qui alimente beaucoup la fièvre, c'est lui qui instrumentalise beaucoup les phénomènes de fièvre, c'est lui qui fabrique aussi une part de la mécanique de la fièvre. Mais à mon avis, il est aussi absent pour une autre raison, c'est que sans doute, et ça, je ne me mets même pas à la place du scénariste, mais peut-être un peu, il considère sans doute que le politique n'est plus suffisamment fort pour calmer les phénomènes de fièvre. En fait, ce qui est très intéressant dans la série, c'est que ce sont plutôt les corps intermédiaires, ce sont plutôt d'autres structures que les responsables politiques, c'est plutôt en effet le tissu associatif, c'est
le sport,
un club de football,
qui ramène au collectif,
qui ramène à quelque chose à travers de la coopération, mais le politique est absent, sans doute parce qu'en effet, à la fois il allume et il est incapable d'éteindre.
Mais moi je pense que le ressort principal de ce qu'on appelle la polarisation politique, c'est d'abord l'impuissance du politique, c'est-à-dire le fait que le politique ne traite pas certains sujets, notamment par exemple la question migratoire, où il affiche une impuissance totale sur la question des flux migratoires, crée effectivement une polarisation et une frustration. Et vous l'avez dit, ce qui crée du commun dans la série, c'est le football. Moi, je trouve ça assez léger, en fait, de penser qu'on va pouvoir ressusciter la nostalgie Black Bomber de 1998. Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Et on a un peu le même espoir aujourd'hui avec les Jeux Olympiques qui, en juillet, permettraient finalement de rassembler une France fracturée. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit suffisant. Le sport ne peut pas se substituer à une forme de patriotisme ou de quelque chose qui crée du commun. Je pense qu'il n'y a pas de commun sans une forme de transcendance collective qui, dans la nation par exemple, dans quelque chose de plus substantiel que le simple divertissement. Et je pense que le sport ne suffira pas à unir les Français.
Sur l'immigration, c'est intéressant ce que vous dites, Eugénie Bastier, mais Laurence de Nervaux, en même temps, on l'a vu dans les différentes campagnes présidentielles, ce qui l'a emporté, c'est les sujets économiques et sociaux. Donc ça aussi, la Syrie ne l'aborde pas. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train de grossir quelque chose qui ne l'est pas dans la réalité ? Contrairement à ce que vous dites, Eugénie Bastier, finalement, on est toujours rattrapé par ce qui est pour les gens essentiel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et la réalité du quotidien.
Bien sûr, mais ça c'est, voilà, le scénariste a pris le parti d'aller un petit peu sur d'autres sujets, mais pour revenir sur ce que vous disiez sur le sport, et je vous rejoins plus tôt, on avait fait une étude au moment de la dernière Coupe du Monde sur est-ce que finalement le ballon rond peut vraiment être un vecteur de cohésion, et ce que vous dites est tout à fait juste, c'est ça, pour que ce ne soit pas simplement une euphorie collective éphémère, le sport peut être un vecteur d'intégration, mais il faudrait travailler beaucoup plus justement sur cette dimension d'éducation par le sport, mais aussi ce qui est intéressant, ce qu'on avait capté à ce moment-là, c'était l'attachement des Français aux symboles républicains, et à ce moment, qui sont mis en avant au moment d'une Coupe du Monde, par exemple, mais dont ils disaient, en le déplorant, eh bien aujourd'hui, par exemple, le drapeau français, quand on le brandit, on est qualifié de fasciste, ou voilà, on ne peut même plus parler de patriotisme, c'est encore une différence intéressante, je trouve, avec les États-Unis, et donc il y a sans doute un vrai travail à faire sur notre rapport aux symboles républicains, je pense.
Une dernière question à propos du scénariste que tout le monde a vanté et dont tout le monde loue le travail. Il paraît que tous les politiques le courtisent et veulent avoir son avis, ses augures, ses oracles. Ça ne dit pas quelque chose quand même d'un peu désespérant sur l'état de la politique et des politiques, Eugénie Bastier ou Jérémy Pelletier ?
Il y a toujours eu des gens qui murmurent à l'oreille du politique, ce n'est pas nouveau, ils sont nombreux. Sans doute que là, on est face au haut du panier, on est sans doute face à un des meilleurs, je pense ouvertement, et c'est sans doute la raison pour laquelle, lucidement, un certain nombre de responsables politiques lui demandent conseil.
Parce qu'il était conseiller politique lui-même.
D'une part, et parce que je pense qu'ils sont très peu nombreux à aussi bien connaître la mécanique des partis, aussi bien connaître le pays, mais aussi bien connaître la façon dont on fait le récit aussi d'un pays. Il est l'un des rares à connaître aussi bien Jean-Luc Mélenchon par ailleurs, ce qui est une qualité aujourd'hui quand on veut essayer de comprendre un peu le paysage politique. Donc il a plein de qualités qui font qu'en effet, c'est l'un sans doute des meilleurs du moment.
L'impuissance du politique.
Je trouve que ce qui est le plus réussi dans cette série, et qui était aussi très réussi chez Baron Noir, c'est cette définition du pouvoir de la communication, en fait. C'est la maîtrise de la communication qui est aujourd'hui devenue, et je pense malheureusement, l'essence de la politique, parce que précisément, le politique ne peut plus changer grand-chose.
Eh bien écoutez, merci à tous les trois d'avoir sorti le thermomètre autour de ces notions de fracture identitaire.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.